Monsieur le Premier ministre, Monsieur le député, Madame et Monsieur le maire, Monsieur le directeur général du CNRS, chers collègues, chers amis, l'Université Paris Sud est très fière de vous accueillir à l'occasion des 50 ans d'un des plus prestigieux laboratoires. En ces temps où l'on cherche des méthodes sophistiquées pour évaluer la recherche et les laboratoires, quel meilleur estimateur de la renommée du laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay, LAL, peut-on imaginer que votre présence ici ? Il n'est pas si fréquent, en effet, de recevoir à l'université tant de personnalités du monde politique, scientifique ou institutionnel. Sur le plan politique, un ancien Premier ministre, M. Michel Rocard, un député, M. Pierre Lasbordes, deux maires, Mme Marie-Hélène Aubry et M. Philippe Janin, ont accepté de sacrifier une partie de leur temps si chargé pour nous honorer de leur présence. Dans le domaine scientifique, nous avons le plaisir d'accueillir deux prix Nobel de physique, M. Dick Taylor du Stanford Linear Accelerator Center, le SLAC, qui a fait ses premières armes dans notre laboratoire il y a plus de 40 ans, comme il nous le racontera tout à l'heure, et M. Jack Stenberger du CERN à Genève. Nous accueillons également les directeurs des plus grands laboratoires de physique des particules dans le monde, M. Robert Aymar du CERN, Jonathan Dorfan du SLAC, Mario Cavetti du laboratoire Frascati, John Wormsley du laboratoire Rutherford en Angleterre, Albrecht Weiner du DESI qui nous rejoindra ce soir, Hugh Montgomery, directeur adjoint du laboratoire national Fermi près de Chicago, Thorsten Akeson, président du comité européen des futurs accélérateurs, ECFA. Tous ces grands scientifiques ont franchi des distances souvent considérables pour venir assister à ce colloque en hommage au LAL et aux 50 ans d'histoire commune au service de la recherche scientifique en physique des particules et en cosmologie. Enfin, sur le plan institutionnel, qui recouvre en partie naturellement le domaine scientifique, je me réjouis de nombreux collègues dirigeants des grands organismes de recherche qui se sont ainsi mobilisés pour fêter les 50 ans du LAL. Je salue en particulier le directeur général du CNRS, Arnold Migus, la présidente du CNRS, Catherine Bréchignac, qui prononcera demain le discours de clôture, Jean-Zine Justin, directeur du DAPNIA, Michel Spiro, directeur de l'IN2P3, un très grand nombre de directeurs des autres laboratoires de l'IN2P3 et aussi Maurice Robin, directeur de la recherche à l'École Polytechnique. Je dois également citer tous les amis et les membres anciens ou actuels du personnel du LAL qui se sont très fortement mobilisés à l'occasion de ce cinquantenaire. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir recevoir parmi nous certains des pionniers qui ont largement contribué à la construction de ce laboratoire, notamment messieurs Burnot, Le Boutet, Dardel, ce dernier ayant été embauché dès 1954 dans le laboratoire d'Yves Rocard à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. La référence à l'École normale supérieure me conduit tout naturellement à évoquer les origines du laboratoire de l'accélérateur linéaire et avec celle du campus d'Orsay et de l'Université Paris-Sud, bien sûr. En effet, notre université a été créée officiellement en décembre 1970. Mais en réalité, les fondations sont antérieures. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la recherche est largement orientée vers la physique et plus particulièrement vers la physique atomique et des parties corpusculaires. Cette recherche implique des accélérateurs de plus en plus puissants, impossibles à installer à Paris, et qui rendent nécessaire l'achat d'un vaste terrain dans la région parisienne. À cette époque, Irène Joliot-Curie demandait la création d'un nouveau laboratoire en physique nucléaire et en radiochimie. Son mari, Frédéric Joliot, professeur au Collège de France, réclamait la construction d'un synchrotron à protons et Yves Rocard directeur du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, rêvait d'un accélérateur d'électrons semblable à celui de Stanford. Comme vous le voyez, les chercheurs sont toujours en train de demander la Lune au pouvoir politique. Vous en savez sans doute quelque chose, monsieur le Premier ministre. Quoi qu'il en soit, des démarches sont entreprises en commun par l'Université de Paris, seule en région Île-de-France, l'École normale supérieure et le Collège de France pour trouver de l'espace dans la vallée de Chevreuse. C'est ainsi que le 28 mars 1955, le décret de déclaration d'utilité publique nécessaire à l'acquisition par l'Université de Paris des 160 hectares du parc de Launay à Orsay et quelques terrains situés à Bure-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette fut signé par Edgar Faure, alors président du Conseil, et par Jean-Marie Berthoin, ministre de l'Éducation nationale de cette époque. Le chantier de construction de l'Institut de physique nucléaire fut aussitôt ouvert, suivi peu après par celui du laboratoire de l'accélérateur linéaire qui fête aujourd'hui donc ses 50 ans, le bel âge. Ces deux laboratoires, qui sont aux racines de l'Université Paris-Sud, expliquent en partie le partenariat historique que notre établissement a construit avec le CNRS et ensuite avec d'autres EPST. Aujourd'hui, l'Université Paris-Sud est en cotutelle de 39 UMR avec le CNRS, dont 3 tripartites avec l'INRA, d'une UMS, unité mixte de service, avec le CNRS, de 32 UMR avec l'INSERM, d'une UMR avec l'INRIA et de 4 UMR avec le CEA. Enfin, 10 instituts fédératifs de recherche complètent cet important potentiel scientifique en collaboration avec les EPST. La politique de partenariat avec les EPST reste plus que jamais d'actualité et a été clairement exprimée dans le projet quadriennal 2006-2009 de l'université dont la négociation vient de se terminer. L'importance de l'implication des EPST dans notre recherche met d'ailleurs en évidence la nécessité d'une collaboration renforcée pour la définition de la politique scientifique et la gestion des ressources humaines. Ce dernier point est particulièrement sensible dans le contexte des départs à la retraite massifs qui vont avoir lieu prochainement et qui ont déjà débuté. De plus, l'érosion des personnels des EPST et tout particulièrement des ITA, rend nécessaire la définition d'objectifs à moyen terme sur les personnels afin de ne pas compromettre l'avenir des laboratoires. Même si la constitution d'une UMR en ce qui concerne le laboratoire de l'accélérateur linéaire est relativement récente, les relations entre l'université et le LAL sont historiques et fortes. Tout d'abord, le LAL est un des grands laboratoires du campus d'Orsay, Bure-sur-Yvette, et a largement contribué à la réputation scientifique de ce territoire. Ensuite, des professeurs prestigieux ont donné au laboratoire une partie de ses lettres de noblesse. Je ne peux m'empêcher d'évoquer par exemple André Lagarrigue, dont la mémoire sera honorée demain et qui eut une chaire ouverte dès 1964. Je mentionnerai également Pierre Lehmann, directeur intérimaire du LAL en 1975, directeur de l'IN2P3 et du DPHEPE, l'ancêtre du Dapnia au CEA, qui nous a quittés aussi beaucoup trop tôt. Jean Pérez Ijorba, qui fut directeur du LAL de 1975 à 1984 et doyen de la Faculté des sciences. Jacques Essinski, vice-président de l'université en 1970 et qui fut directeur du Dapnia. Et enfin, Michel Davier, directeur du LAL de 1964 à 1992, membre de l'Académie des sciences. Aujourd'hui encore, plusieurs professeurs qui effectuent leurs recherches au LAL sont fortement impliqués dans la marche de l'université. Je pense notamment à Étienne Auger, professeur, vice-doyen de la Faculté des sciences, et à Alain Cordier, professeur, membre du conseil scientifique responsable du master physique fondamentale et appliquée. Le LAL a contribué d'une manière importante à la renommée du campus d'Orsay, non seulement grâce à sa propre recherche, mais également par l'essaimage qu'il a suscité dans notre faculté des sciences. Par exemple, le laboratoire LUR, premier centre de lumière synchrotron en France, est né de la scission du LAL en 1985. Le LAL a également contribué à la construction des premiers des tout premiers lasers à électrons libres au monde, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'accélérateur ELISE pour la chimie. De même, le synchrotron Soleil, qui est issu directement de l'UR, a aussi une partie de son histoire dans le LAL. Cette influence scientifique majeure se poursuit aujourd'hui, puisque le LAL est impliqué dans la constitution du réseau RTRA. Oh, quel nom barbare! C'est un nouvel objet de la loi, réseau thématique de recherche avancée. Celui-ci est cosmologie, particules et astroparticules, qui est piloté par Jean-Loup Pouget et de l'Institut d'astrophysique spatiale, en collaboration étroite avec Guy Vancer, directeur du LAL. Ce projet important, qui va réunir une quinzaine de grands laboratoires, va ouvrir un champ considérable d'investigations nouvelles en cosmologie, physique, visant par exemple des questions aussi fondamentales que résoudre les contradictions entre la mécanique quantique, et la relativité générale, détecter directement les ondes gravitationnelles, pourquoi la matière domine-t-elle sur l'antimatière dans l'univers, ou encore quelle est l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Le LAL est impliqué dans la plupart des thématiques de ce réseau de recherche avancée, notamment la physique des particules, la microélectronique, l'informatique et l'instrumentation spatiale. Enfin, je ne saurais parler du rôle du LAL à Orsay sans préciser que la présidente de l'université que je suis est très sensible à la contribution significative qu'apporte le laboratoire en matière d'enseignement. Cet apport vient bien sûr des enseignants-chercheurs qui font leurs recherches, mais aussi des chercheurs et des ingénieurs du laboratoire qui fournissent une contribution appréciée dans l'enseignement, notamment en informatique et en formation continue. En bref, l'avenir appartient sans aucun doute à une collaboration étroite entre ce laboratoire et l'université. Je suis sûr que Monsieur le directeur général du CNRS, que vous êtes, comme moi-même, convaincu de l'importance stratégique de notre partenariat pour développer au LAL, comme dans les autres UMR, une recherche scientifique du plus haut niveau international. Le colloque qui va débuter dans un instant mélange les vocations du passé et les perspectives d'avenir, les exposés scientifiques et les témoignages des acteurs. Je voudrais remercier chaleureusement tous les collègues qui se sont mobilisés pour élaborer une manifestation qui fait honneur à toute la communauté scientifique française. Je souligne en particulier le très gros travail fait à l'occasion de ce cinquantenaire par le personnel du SCAVO et des archives cinématographiques de l'université. En somme, excellent colloque à tous. Je vous remercie de votre attention.